بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شافعي الإسلام toute les louanges reviennent à Allah عز وجل qui nous a donné la possibilité ce soir de compléter quel juz? Le 20e. C'est-à-dire que là il reste subhanallah les 9 derniers sipara pour compléter le khatm al-Qur'an. Et autant on mettait en avant au début de Ramadan le fait que les jours vont défiler et on va avancer de sipara, de juz en juz, jusqu'à ce qu'on arrive bientôt à la fin de ce khatm al-Qur'an. Et voilà, on a dépassé, on a complété ce soir le 20e juz. Ikhwan fillah, on va ce soir traiter d'un verset qu'on devait aborder il y a deux jours, mais après circonstances, on n'a pas pu être présent. C'est un verset qui, selon moi, est essentiel. Il se trouve dans le 18e juz, 18e sipara, dans la sourate An-Nur. Et cela concerne une action extrêmement importante qui peut paraître être secondaire, qui paraît être parfois anodin. Et on n'imagine pas la portée de cette action. La portée de cette action dans les deux sens. Autant cette action peut nous apporter énormément sur le plan spirituel si on arrive à faire ce qu'Allah Rabbul Izzah nous demande dans le verset, mais également vers quel point, jusqu'à quel niveau on peut descendre et quel est le point de chute si on ne contrôle pas cette action et on finit par suivre nos instincts et donc aller à l'encontre de ce verset. On parle du verset numéro 20 de la sourate 30 de la sourate An-Nur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Le verset parle de quelle action? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dis aux croyants, on a retrouvé, dis aux croyants de baisser le regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur d'eux ce qu'ils font. On parle de quoi? Du contrôle du regard. Comme je dis que ça paraît être une action vraiment secondaire, on a l'impression que les péchés graves se limitent à telle chose. Certes, il y a des péchés qui sont très lourds en conséquence. Si je vous parle de l'adultère, c'est un péché banal ou d'une gravité extrême? Une gravité extrême. Dans certaines sources, on parle du iman qui sort du cœur du croyant au moment où il accomplit l'adultère. Donc c'est vraiment un péché lourd en conséquence. Ça fait partie des kaba'ir. Et si on compare avec le contrôle du regard, on se dit que le contrôle du regard, c'est incomparable, c'est insignifiant. Mais vous savez, les péchés majeurs, ils trouvent leur source dans des petits péchés, entre guillemets, dans les premiers pas qu'on va faire vers un petit péché. Parce que quand tu fais un premier pas vers un petit péché, c'est que tu as eu un dilemme entre suivre ton nefs, qu'est-ce que ton cœur te dit, et te restreindre aux ordres d'Allah Azza wa Jal, suivre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et face à ce péché, face à une situation où on peut contrôler son regard, ou alors regarder ce qu'on a envie de regarder, ben, subhanallah, dans cet espace, dans ce laps de temps de quelques secondes, il y a des décisions lourdes en conséquence qui peuvent être prises contre nous, tout comme il y a des degrés énormes, très élevés qu'on peut atteindre uniquement en prenant la bonne décision dans cette situation. Et ce qui est extrêmement important, c'est deux points. Premièrement, nous vivons dans une société où les fitnas, les sources de péché sont extrêmement nombreux. D'accord ? Il n'y a pas un endroit, on parle de La Réunion, on pourrait parler de n'importe quelle autre société, où il y a autant de tentations. D'accord ? En plus, ici, on est dans une île tropicale, il fait souvent chaud. Donc, et avec tout ce qui vient avec en termes de coutumes vestimentaires. Donc, le contrôle du regard, c'est quelque chose de difficile. Et plus il est difficile de suivre un ordre, ben plus sa récompense est élevée. Quand vous êtes, imaginez vous allez au Hajj, vous allez au Umrah, ben vous êtes en Terre Sainte. Est-ce que le contrôle du regard est difficile? Ben non, les gens sont couverts correctement, il n'y a aucune tentation. Mais quand tu es à Paris, quand tu es à Saint-Denis, tu es à Saint-Pierre, tu es à un endroit où les femmes ne se couvrent pas correctement, où il y a plein de choses à voir, mais pas à regarder, D'accord? Il y a plein de choses à voir qu'on ne doit pas regarder. Ben, le fait de se contrôler, de se dire non, intérieurement et spirituellement, c'est-à-dire c'est se faire violence. Ce n'est pas quelque chose de simple. Quand, c'est pour ça que le prophète, on va voir les hadiths, le premier regard est pardonné. Pourquoi le premier regard est pardonné? Le premier regard, c'est le regard furtif. Tu as vu, maintenant quand tu as perçu le fitna, ce qui peut t'amener vers le péché, la réaction du croyant, c'est de ramener le regard et de ne pas le prolonger, bien sûr, et de ne pas renouveler le regard. Et dans ce laps de temps-là où tu prends la décision, c'est comme si que le temps s'arrête. Vous savez, le cerveau, il peut traiter des centaines d'informations en très peu de temps. Il pèse le pour et le contre. Il a repéré, d'accord, ce qu'il aimerait bien regarder. Et tu as le côté iman, spirituel, hadith qui intervient. Tu as le côté nafs. Et là, il y a comme une balance intérieure entre nafs, hawa, d'un côté, et iman, taqwa Allah, khashyatullah, muraqabatullah, avoir la certitude qu'Allah nous voit d'un côté, et dans ce, entre guillemets, de ce match, entre ces deux parties, c'est là qu'on voit le fond de notre iman, notre capacité à nous contrôler. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? C'est parce que ce péché est omniprésent. Un. Deuxièmement, c'est que ce péché est banalisé. Ce péché est banalisé, et c'est presque comme si que, on admire, il y a même des gens qui vont vers cet extrême, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a certains extrêmes, pour eux, ben c'est la création d'Allah, on peut admirer la création d'Allah. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Tu vas admirer la création d'Allah, regarde les montagnes, regarde les oiseaux, regarde la nature, d'accord, mais tu n'as pas regardé ce que tu n'as pas regardé, ce qui est haram pour toi, en te disant que c'est la création d'Allah. Non, il y a les limites, ce sont celles qu'Allah nous a fixées. Dans ce verset donc, et ce qui est particulier avec le verset de la sourate An-Nur, c'est qu'il se décline au masculin et au féminin, chose qui est rare dans le Coran. La plupart du temps, c'est « Ya ayyuhal ladhina amanu » et ça concerne les croyants et les croyantes. « La yaqul lil mu'minina » de le verset 30 et dans le verset 31, il y a plus loin « Wa qul lil mu'minati » avec la même règle « Yaghudhuna min absarihinna » c'est-à-dire le même « hukm » le même interdit et la même le même ordre qui vient d'Allah Azza wa Jal s'adresse tant aux messieurs que aux dames. Pour preuve que c'est une fitna qui touche tout le monde. Ce n'est pas une fitna qui touche uniquement les messieurs. Et que dans cette situation, il est important de se contrôler. Parce que celui qui ferme les portes du fitna dès le début, ben il n'arrivera pas à le péché majeur. Alors que celui qui laisse les portes entrouvertes et qui pense que non, moi, c'est je me contrôle et tout, vous ne pouvez pas imaginer ce que Shaitan peut vous faire accomplir. Vous ne pouvez pas, vous ne savez même pas, on ne sait même pas quelles sont nos limites. Et on ne perçoit même pas comment Shaitan, avec ses waswasa, avec ses insufflations, pardon, il arrive à vous toucher en plein cœur. Et alors qu'on se croit fort spirituellement, on se sent capable de se maîtriser, on se rend compte, quand on sombre dans le péché, que nous n'étions que des hommes faibles. Et que si seulement j'avais contrôlé le regard, j'avais fermé cette porte, je ne serais pas arrivé vers ce péché majeur qu'Allah nous protège. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, l'explique ce verset. « Hada amru min Allah » C'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jal « li'ibadihi al-mu'minin » pour ses serviteurs croyants « an yaruddu min absarihim amma harram Allahu alayhim » de contrôler le regard, de baisser le regard face à ce qu'Allah a rendu, a décrété « haram » donc ça y reprend, et ce qu'il dit c'est min ghayri qasdin, il a dit tant que le regard est ce n'est pas intentionnel et qu'il n'y a pas de mauvaise intention et c'est un regard furtif, ça c'est pardonné par Allah Azza wa Jal, parce que nous vivons quand même dans une société mixte, donc on ne peut pas demander à un homme de ne jamais regarder une femme, chose qui est impossible. Et pourquoi est-ce qu'on a dit au début, ça peut paraître secondaire, parce que de la société de laquelle nous vivons, d'accord, si une personne qui n'a pas la foi entend ce discours, il n'arrivera pas à comprendre qu'est-ce qui interdit à un homme, d'accord, il est musulman, de regarder une femme qui est belle. Au nom de quoi c'est nocif, c'est mauvais pour sa relation avec Dieu. Il n'y a aucune relation, aucun rapport. Tromper ta femme, d'accord, c'est quand même vache. Parce que voilà, il y a les relations humaines qui interviennent, et ainsi de suite. Avoir une maîtresse, c'est pas bien. Mais le simple fait de regarder une femme qui est jolie, qui est belle, ben c'est une créature. Allez, si tu crois en Dieu, c'est une créature de Dieu. En quoi est-ce que cela est nuisible et mauvais, négatif pour ta foi? C'est C'est une action, le contrôle du regard, qui ne peut pas être compris si on n'a pas la foi. Il y a des discours comme ça qui ne peuvent être compris uniquement de ceux qui ont la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la ilaha illallah, ils espèrent, ils attendent de la part d'Allah Azza wa Jal ce que d'autres personnes n'attendent pas. Ils n'y croient même pas. Tu ne peux pas aligner ta conception du monde, ta conception du halal, du haram, les frontières entre le licite et l'illicite, avec une personne qui ne croit pas en l'au-delà. Toi, tu crois au paradis, tu crois à l'enfer. Même si on veut être extrêmement ouvert de notre discours, je suis entièrement d'accord, mais les limites qu'Allah Rabbul Izzah nous a fixées, ce sont les limites qui sont les meilleures pour l'être humain. Qu'on l'intègre ou qu'on ne l'intègre pas. Après, il n'y a pas de position extrême non plus. Et justement, ce qui montre vraiment que c'est une religion qui est adaptée, fille, les kulli zaman et nouamakan, pour n'importe quel endroit et n'importe quelle époque, c'est que côtoyer des personnes, le fait de voir, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le regard mal intentionné. Le prophète sallam avait été questionné par Abdullah al-Bajili, radiallahu anhu, dit que « Sa'altu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an nazratil faj'a fa amarani an asrifa basari » Demandez au prophète sallam, qu'en est-il du regard furtif? Et le prophète m'a demandé de contrôler, de détourner le regard. Et un peu plus loin de notre hadith, le prophète avait dit avec Ali, « Ya Ali, ne fais pas suivre un premier regard d'un second regard. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَ » Tu as droit au premier, c'est-à-dire que le premier t'est pardonné, mais le deuxième n'est pas pardonné. Parce que le premier regard est inévitable, comme on l'a dit, à moins qu'on aille vivre dans un endroit isolé et tout, chose que l'islam ne nous demande pas. Et si le premier regard était un péché, là ça aurait été une religion impossible à pratiquer. Le premier regard, il est accepté, il est normal, on va dire. Mais c'est le second regard qui, lui, cette fois-ci, sera certainement mal intentionné, avec d'autres sentiments. C'est ce regard-là que nous devons absolument contrôler. Dans un hadith, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte que le prophète m'a dit, « Iyakum » Ah oui, ça c'est un conseil magnifique que le prophète avait donné aux gens. Aux gens qui s'assoient parfois dans la rue. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Vous avez un trottoir où vous avez des petits murets, hein, comme un petit peu à l'extérieur de la masjid. D'accord ? Il faut éviter de s'asseoir. Il faut éviter de s'asseoir dans la rue, parce que quand tu t'assois dans la rue, soit tu poses problème aux gens, tu peux obstruer le passage, soit tu peux, je sais pas, parler fort ou faire des attroupements et ça gêne les gens. On en avait parlé il y a quelques jours, hein, c'est des personnes qui sont dans la rue, qui arrêtent des voitures, ils veulent faire salam tout le monde. Faire salam, c'est une bonne action. Mais si tu arrêtes les gens pour faire salam ou la kat et ainsi de suite, tu ralentis la circulation. Il faut une petite anecdote, hein. J'habitais encore à la ville sainte, Al-Madina, Al-Munawwara, je conduisais. Ou alors, j'étais à pied plutôt, je ne sais même plus. Bref, il y a une personne qui est en voiture, un Saoudien, et il a vu un ami, il s'est arrêté, il est descendu de sa voiture, il est parti le voir, il est parti l'embrasser, comme les Arabes ont l'habitude de se faire la bise. Il a arrêté toute la circulation, je l'ai vu de mes yeux, pour aller l'embrasser, « Kefahal bikhay, kefahal tamam, tu vas bien, la famille, tout va bien. » Il est rentré dans sa voiture, et il est reparti. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'est-à-dire, c'était extrêmement sincère. Il voit un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Pour lui, il n'y a aucun mal. Il bloque la circulation. Il va l'embrasser, faire la bise, ça va, tu vas bien. Et il reprend le volant, il repart. Mais certes, il y a la mahabba, il y a le fait de faire salam, afshu salam, abaynakum. Mais après, il ne faut pas causer du tort aux gens. Hein, Shafi, si vous faites ça à d'autres camions à chaque fois. Quand la route littorale est basculée. Si vous arrêtez sur Canal Bichy, ça fait salam, camarade. On ne va pas s'en sortir. D'accord ? Donc, il y a un juste milieu. Donc, le fait de s'asseoir dans la rue, ça, c'est un comportement qui n'est pas correct, qui n'est pas adapté. Parce que, au-delà du fait de causer du tort aux gens qui passent, ou faire du bruit, ainsi de suite, ben, quand tu es dans la rue, il y a le passage de gens, hommes et femmes. Et si tu t'assois, tu n'as rien à faire, si ce n'est que regarder les gens, automatiquement, ton regard va se poser sur des femmes. Et donc là, tu t'exposes, contrairement au fait de travailler. Tu travailles dans un cabinet de comptable, d'avocat, tu es chez le médecin et tout, tu vois les femmes, c'est pas ça le problème. Maintenant, parce que c'est la vie, on n'y peut rien, mais que tu t'exposes toi-même face à un péché qui est tout à fait accessible, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans une situation où tu regardes les gens, ça c'est un comportement qui a évité. Donc, par exemple, il y a certaines personnes, « Iyakum al-julus al-turuqat » Attention, évitez de vous asseoir dans le passage. Il a dit au prophète d'Allah, il y en a qui disent que ben, si on aime bien être là, la tahaddathu fiha, on aime bien se réunir et discuter à cet endroit. Le prophète m'a dit que si vraiment Vous voulez, vous tenez à ça. Donc, donnez au chemin son droit. Et là, ils ont dit au prophète d'Allah, وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ. Quel est le droit du passage, de la rue, du chemin? Le prophète a dit, premièrement, premier choix que le prophète a dit, رَضُّ الْبَصَرِ. Si vous voulez rester dans la rue, ou vous attroupez là et tout, première chose, baissez le regard. Ce n'est pas parce qu'on est dans la rue comme ça, on fait les vigiles. Si vous voulez des vigiles, il y en a. Ils ont des contrats et tout. Vous pouvez en prendre des vigiles. Mais toi, tu n'es pas là pour faire les vigiles. Parce que si tu regardes intentionnellement, c'est là qu'il y a un problème. Premier droit de la rue, c'est Rabdul Basal. Wa kuful adha, tu ne portes atteinte à personne, tu n'embêtes personne. Wa rajd salam. Et répondre au salam si des gens passent, ils font salam, ça fait trois. Wa al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Ordonne le bien et interdit le mal. Si tu vois dans la rue quelque chose qui est mauvais, tu essaies de rectifier, d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Donc, voilà donc un conseil prophétique pour contrôler son regard, ne pas s'exposer à une situation où on peut voir des choses qui sont mauvaises pour nous, parce que cela va nous porter atteinte spirituellement. Qu'on en soit conscient ou non. Quelqu'un qui regarde ce qu'il n'a pas le droit de regarder, et il vient, il accomplit sa salat. Pensez-vous une seconde qu'il va trouver la dévotion et la concentration de la salat? Les savants disent que parmi les clés du khushu' et de la concentration de la salat, qui est un grand thème à notre époque, ce que le prophète avait annoncé parmi les petits signes de Qiyama, viendra une époque où, dans une assemblée où il y aura 100 personnes, si je ne me trompe pas, le hadith il y a longtemps, dans une assemblée où il y a 100 personnes qui vont prier, on n'en trouvera pas une qui prie avec khushu', avec dévotion. Signe, petit signe du Qiyama. Et les savants disent que parmi les qualités qu'on doit réunir pour avoir la khushu', pour avoir la dévotion de la prière, c'est le contrôle du regard. Car celui qui contrôle son regard pour Allah, celui qui contrôle sa langue pour Allah, celui qui contrôle ses oreilles pour Allah, celui qui contrôle ses pensées pour Allah, celui qui se contrôle entièrement pour Allah, il se met dans une situation de salat. Parce que quand il va se mettre sur le tapis de prière, il a déjà l'habitude de tout orienter vers Allah, et là il va se mettre en connexion, entre guillemets, avec son Seigneur, et il va trouver assurément la dévotion et la concentration. Parce que toute sa vie, il s'entraîne à se contrôler pour Allah. Donc le fait de contrôler son regard, ça te permet d'avoir la concentration, la dévotion de la prière, et quelle plus belle récompense de ce dunya que de ressentir la douceur de la foi, cette fraîcheur du iman, quand on est en train de prier, de se mettre debout devant Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, le prophète avait dit, contrôlez six choses et je vous garantis, à peu près le sens, je vous donne la garantie du paradis. إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ. Lorsqu'une personne parle, qu'il ne mente jamais. Première chose, un mu'min ne doit jamais mentir. Deuxièmement, وَإِذَا أَتُمِنَا فَلَا يَكُونَ. Si on vous fait confiance, ne trahissez pas la confiance des gens. D'accord? Il faut respecter ses engagements et ne pas trahir la confiance que nous a fait. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ. Pareil, si tu t'es engagé à faire quelque chose, respecte ton engagement. وَرُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. Et baissez votre regard. Parmi les conseils que le prophète a donné, baissez votre regard. وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ. Contrôlez vos membres. Ne faites pas du mal aux gens. Ne faites pas du mal à votre prochain. Parenthèse, quand le prophète dit وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ. Ne faites pas du mal aux autres. Ça concerne les croyants, les non-croyants ou tous les deux? Tous les deux. Toutes les réponses citées. Les deux. Quand on dit كُفُّوا أَيْدِيكُمْ, protégez, ne faites pas du tort avec vos mains, avec vos membres, tant avec les croyants que avec les personnes qui sont athées ou qui partagent d'autres croyances. Et protégez-vous de l'adultère. Six choses que le prophète m'a conseillé, a demandé à sa Oumma de respecter pour avoir la garantie du paradis. Et parmi cela, on voit il y a quand même des points importants, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas trahir son prochain, le fait de ne pas se désengager, de ne pas tenir sa promesse, et ainsi de suite, le fait de ne pas faire du tort aux gens, de ne pas accomplir l'adultère. On voit là des points extrêmement importants. Et parmi ces points importants, il y a une action qui est, on va dire, qui se glisse, qui trouve sa place et qu'on peut considérer comme moins lourd en conséquence, mais si le prophète l'a cité, c'est que ça peut nous amener directement vers l'adultère, c'est le fait de contrôler son regard. Dans certaines sources, certains parlent de hadith, d'autres parlent de l'opinion de pieux prédécesseurs, il est dit que « An-Navaru siham ou alors sum ila al-qalb, que le regard c'est un poison qui pénètre le cœur. Et dans certaines sources, bah, si on va retrouver ce hadith, on parle de sahmun masmum min siham iblis, une flèche empoisonnée, des flèches du diable de Satan. Pourquoi une flèche empoisonnée? C'est un savant dans une explication. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une flèche empoisonnée? Qu'est-ce qui caractérise le poison? Le poison, c'est un produit, c'est un élément qui va te tuer lentement, sans que tu t'en rendes compte. Mais pareil, le regard, c'est un méfait spirituel qui va pénétrer ton cœur, qui va noircir ton cœur. Ce n'est pas comme si tu accomplis directement l'adultère ou un péché majeur. C'est quelque chose qui va rentrer dans ton cœur, qui va noircir le cœur. Pourquoi est-ce que ça noircit le cœur? Parce que quand un musulman accomplit un péché, il y a un point noir qui s'installe sur son cœur. S'il demande pardon, le point noir est effacé. S'il ne demande pas, le point noir s'installe et il répète le péché jusqu'à ce que le cœur devienne complètement noir. Après, il y a des conséquences énormes. Mais justement, le regard, quand, premièrement, tu t'en rends même pas compte et tu peux regarder ce que tu ne dois pas regarder au moins 20 ou 30 fois dans une journée, oui ou non? Facilement. Je ne vous demande pas de compter parce que ne comptez pas les péchés. Mais si on devait compter le nombre de situations où cela est accessible, ben, malheureusement, d'accord? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas regarder, c'est un point noir. Et comme tu t'en rends pas compte, tu ne penses pas qu'il faut demander pardon. Parce que c'est un péché qui est banalisé. On ne l'appelle même plus péché. Du coup, c'est un point noir. Et tu ne demandes pas pardon, du coup le point noir reste et s'installe. Donc c'est quelque chose, c'est comme un poison qui pénètre lentement ton cœur et qui va se propager partout et ça te tue spirituellement à petit feu. Dans la prière, tu ne trouves plus de concentration. Quand tu lis le Coran, tu es complètement désintéressé. Tu n'as plus envie de faire le dhikr. Très souvent, le problème vient du contrôle du regard. Alors que celui qui contrôle son regard, quels sont les... Je ne parle pas encore des récompenses, mais les promesses sur le plan spirituel. Quand ça me dit que man hafidha basarahu awrathahu Allahu nuran fi basirati, dans certaines sources, fi qalbi, Allah Rabbul Izzah met une lumière dans son regard. Ou alors, dans une autre source, Allah met une lumière dans son cœur. On va un peu plus loin dans le hadith. Le prophète a dit, hadith d'Abu Umama, radiallahu anhu, alayhi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, ma min muslimin yanzuru ila mahasin imra'atin, thumma yaghuddu basarahu, illa akhlafahu allahu lahu, ibadatan yajidu halawataha. Quand un croyant voit la beauté d'une femme et il baisse son regard, Allah Azza wa Jal lui accorde la possibilité d'accomplir par la suite une bonne action à travers laquelle il va trouver la douceur de la foi. Il va trouver la douceur de la foi dans cette bonne action. Les savants disent d'une manière générale, à travers le hadith, Man taraka shay'an lillahi, awwadahu Allahu khayran minhu. C'est un hadith qu'on cite, subhanallah, très souvent, parce que ça fait partie des hadiths de base. Celui qui délaisse quelque chose, lillah, pour Allah, et uniquement pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux. Et ce savant dit que l'action par excellence qu'on délaisse uniquement pour Allah, sans qu'il y ait d'autres facteurs qui nous empêchent de l'accomplir, c'est bien le regard. Si je vous parle de l'adultère, qu'Allah nous protège, un homme ne commettra pas l'adultère pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que c'est interdit, il est musulman. Mais avec ça, il y a d'autres raisons qui sont greffées, oui ou non? Très souvent, c'est parce qu'il est marié. Très souvent, c'est parce que il y a des gens autour de lui. Très souvent, c'est parce qu'il a une réputation. Il a une profession, il a un certain statut de la société, et que si les gens savent qu'il a accompli l'adultère, c'est une humiliation. Ou alors, il veut protéger l'honneur de sa famille, et ainsi de suite. Ou alors, il habite dans un endroit où il y a beaucoup de musulmans, donc il y a plein de caméras. D'accord? Donc, il ne veut pas que les gens... Et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour ce genre de péché, ben, il y a d'autres facteurs qui font que tu ne l'accomplis pas. Mais le regard. Qui te voit quand tu regardes ce qui est haram? Et tu peux regarder une femme étrangère et admirer sa beauté plus rapidement que le radar qui se trouve près du cimetière. Qui te flash, tac, en une seconde. Quand est-ce que tu sais que tu as été flashé, Shafi? C'est quand on a vu le petit flash. C'est quand le flash est fini, c'est là que tu sais que ben, tu auras un petit courrier de Rennes dans 2 semaines. D'accord? Et le regard, c'est en une fraction de seconde, tu flashes, ton cerveau l'enregistre et ton cerveau garde l'image. Il scanne et il fait des zooms et il fait tout ce qu'il ne faut pas et ça reste dans ton cœur. Et c'est une image C'est quelque chose qui va te pourrir spirituellement. Ça va être nuisible. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a gagné réellement à travers ça? Si ce n'est juste l'impression d'avoir vu quelque chose et cela nous porte atteinte, c'est la conséquence, et cela nous porte atteinte spirituellement. Et donc, comme on l'a dit, c'est un péché qui est très rapide et personne ne te voit. Et c'est vraiment un des seuls péchés où tu peux vraiment l'abandonner uniquement pour Allah. Parce que même quand tu es dans un groupe d'amis où tu es en train de rouler en voiture, tu es seul, tu regardes et après tu passes à autre chose. Personne ne peut détecter que tu as regardé ce qu'il ne fallait pas. Et si tu ne le fais pas, c'est vraiment parce que tu as l'amour et la crainte d'Allah dans ton cœur. Donc celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de mieux. Et en commentaire, les savants disent que ce qu'Allah t'accorde de mieux, c'est la possibilité de trouver la douceur de la foi à travers les bonnes actions. Que quand tu accomplis la bonne action, tu ressens ce bonheur spirituel comme le croyant doit trouver dans toute bonne action, comme les sahaba, eux, ils avaient à travers les ibadas, les actes vertueux. Hada. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Conclusion avec un hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, qui dit que n'importe quel œil va pleurer le jour de Qiyama. Il pleure pourquoi? Par amour et par crainte d'Allah? Non, par crainte, par peur de ce qui est en train de se passer, à cause des remords, les regrets. Donc les yeux pleurent le jour de Qiyama, à l'exception de certaines catégories de personnes. Parmi ceux-là, illa aynan raddat an maharimillah, à l'exception de cet œil qui s'est détourné de ce qu'Allah a rendu haram. C'est que dans ce dunya, on a un bienfait spirituel, la douceur de la foi, et dans le akhira, certaines sources, on parle d'une lumière dans le cœur, et dans le delà, c'est un œil qui ne pleurera pas d'angoisse, de peur, de remords et de crainte, parce que ces yeux-là se sont soumis à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah, le Très-Haut, nous accorde cette qualité. Et je vous assure que ce n'est pas là quelque chose de facile. C'est vraiment un sacrifice qu'on doit faire tous les jours. Et on n'est jamais vacciné. Il n'y a pas une personne qui peut dire « Je contrôle mon regard H24 ». Ça, c'est pas possible. Parce que nous avons toujours des faiblesses de foi. Il y a des fois où tu es fort, mais il y a des fois où on a des faiblesses. Il y a des fois où Shaitan, il trouve une faille, et ainsi de suite. Donc, c'est un combat qu'on mène tous les jours contre ces pulsions, contre ses passions, afin de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, cela concerne tant les messieurs qui ne doivent pas regarder les femmes étrangères que la femme qui ne doit pas regarder le monsieur. Maintenant, dans une situation où on est au travail ou ainsi de suite, ben on essaie de rester le plus neutre possible. On essaie de chasser les mauvaises pensées de Shaitan. Parce qu'après, il faut se rendre à l'évidence. Dans le milieu professionnel, on peut pas à chaque fois, d'accord, c'est compliqué. Il y a des situations également. Par exemple, quand tu conduis, ne baisse pas le regard. Quand tu traverses la rue, ne baisse pas le regard. Il y aura d'autres problèmes. On essaie de contrôler son intention au mieux. Et on demande à Allah de nous protéger des tentations et de nous donner cette force spirituelle pour répondre présent face à cet ordre divin qui est le contrôle du regard. Illa billah. Troisième nuit de Jum'a, oui ou non? De ce mois béni et avant-dernière, il me semble. Oui, il me semble, parce que le prochain Jum'a, ce sera de la dernière des quatre et puis c'est terminé. Qu'est-ce qu'on doit essayer de faire? On répète la même chose qu'on avait dit la dernière fois. Sachant que c'est Laylatul Jum'a, on essaie de se réveiller, Inch'Allah, un peu plus tôt, faire un peu plus de dua durant cette nuit de Jum'a. Demain, Inch'Allah, salat de Fajr, bien sûr, en congrégation de Jum'a, sur le Kahaf, Inch'Allah, le maximum de salat al-Nabi de Durud Sharif, dans le bus, à pied, en voiture, en venant à la salat de Jum'a, on lit au maximum, et on essaie d'être là tôt pour la prière de Jum'a, d'être au premier rang et d'écouter le khutbah avec dévotion et bien sûr le bain, le rousq, les sunnah, le jour de Jum'a, qu'Allah nous accepte. Wa ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.